Bonsoir, bonjour, peu importe l'heure où vous regardez.
Salut tout le monde.
Alors nous voici de retour pour cette deuxième revue de presse. On essaye, hein, pour l'instant ça a l'air de bien marcher. Cette nouvelle revue de presse du 9 décembre 2021. Et comme hier, on va pas perdre de temps et on va attaquer directement. On va commencer avec cet article néo-zélandais qui parle de documents Pfizer dans lesquels Pfizer concède qu'il y a une forte augmentation des types de réactions indésirables à son vaccin. Je vais vous lire un petit extrait que j'ai traduit ici. Un document publié par Pfizer, dont on a déjà parlé aussi, apparemment à la suite d'une ordonnance du tribunal américain sur la liberté d'information, révèle un vaste éventail d'effets indésirables de vaccins jusqu'alors inconnus, compilés à partir de sources officielles du monde entier. Pfizer admet qu'il s'agit d'une forte augmentation de rapports d'événements indésirables et que même cet énorme volume est sous-déclaré. Plus de 100 maladies sont répertoriées, dont beaucoup sont très graves. Ce document a été compilé par Pfizer au tout début du déploiement du vaccin en Nouvelle-Zélande, mais il n'a peut-être pas été fourni à notre gouvernement. Étant donné que c'est un article néo-zélandais, en fait, ils se plaignent. Ils disent, comment ça se fait que Pfizer avait ce rapport-là? Allez lire dans l'article, vous pouvez voir ça. Comment ça se fait que Pfizer avait ce rapport-là? Et ils ne l'ont pas communiqué à notre gouvernement. Et du coup, nous, nos chiffres à nous, en fait, ils sont beaucoup, beaucoup moins graves. Et du coup, on est en train de subir cette obligation, cette vaccination forcée, on va dire, en nous basant dans des chiffres tout et n'importe quoi. Et ben voilà, le site, il fonctionne même plus, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai sorti l'extrait.
Tant mieux. En fait, tant mieux que ces informations, ils arrivent à sortir quand même. J'espère qu'elle a eu le temps d'être suffisamment partagée. Ça fait un bon moment qu'on.
Ah, mais
qu'on
en
parle.
Fait, elle est tombée. Je pense qu'elle est tombée parce que leurs serveurs, ils ne tiennent pas. Hein. C'est l'information, elle est en train de se propager mondialement, là.
Ah, alors j'ai envie de dire tant mieux. Tant mieux.
Ouais.
Parce que nous, ça parlait un peu dans les milieux très restreints des vastes et vastes, vastes, vastes effets secondaires qui accompagnent l'injection Pfizer. Et c'est très bien que ça commence à devenir mainstream comme information.
Ouais, et restez avec nous, vous allez voir. Donc, une nouvelle étude, donc un autre article, toujours dans le même sujet. Une étude allemande bien structurée ne révèle aucun décès chez les enfants allemands en bonne santé âgés de 5 à 11 ans par rapport au Covid. Voici ce que nous trouvons pour les enfants en bonne santé avec le Covid. Pour les enfants en bonne santé, le risque d'aller à l'hôpital est de 51 pour 100 000. D'accord? 51 pour 100 000, ce qui fait 0,05. Voilà. Pour les enfants en bonne santé, le risque d'aller aux soins intensifs est de 8 pour 100 000, ce qui fait 0,008%, ce qui est rien. Pour les enfants en bonne santé, le risque de décès est 3 pour 1 million. Donc, les enfants ont plus de chances de mourir dans un crash d'avion que... Voilà. Aucun décès n'a été signalé chez les enfants en bonne santé de plus de 5 ans. Les enfants de 5 à 11 ans ont un risque plus faible que les enfants de moins de 5 ans et les adolescents de 12 à 17 ans. Les enfants de 5 à 11 ans ont un risque d'aller aux soins intensifs de 2 sur 100 000. 0,002 et notez aucun décès. Parmi les enfants décédés du Covid-19, 38% bénéficiaient déjà de soins palliatifs ou d'hospice. L'étude allemande montre que les risques pour les enfants en bonne santé sont très faibles. Alors pourquoi les fermetures d'écoles, les mandats de masques et les vaccinations pour les enfants qui ne sont pas à risque?
C'est une façon de détruire la future génération. Psychologiquement, aussi bien mentalement que physiquement. Parce que toutes ces restrictions, ce qui a été imposé aux enfants, non seulement, et on l'a vu avec la psychologue française qui a dénoncé ça, Dupont, il me semble.
Mm-hmm.
Elle a reporté les effets psychologiques avec toutes ces restrictions sur les enfants, le fait d'être séparés les uns des autres, mais penser aussi physiquement, être en hypoxie systématiquement, alors que bon, les enfants, ils ont tendance à courir beaucoup à gauche, à droite et tout.
De l'autre côté, on a la haute commissaire aux droits de l'homme à l'ONU, Michelle Bachelet, qui dit « L'obligation vaccinale se doit de toujours respecter les droits humains et la vaccination forcée n'est jamais acceptable. » Espérons que cette déclaration va rester dans la tête de tout le monde. Donc, vous avez le lien ici dans l'article qui accompagne cette revue de presse. N'hésitez pas à le partager et espérons qu'ils ne vont pas changer d'avis. Oui.
Michelle Bachelet, elle est connue, je crois qu'elle l'a connue en France surtout par rapport aux Gilets jaunes, en fait, où elle a pris position contre, contre la violence policière qui s'est... Enfin, contre la violence policière qui était faite aux Gilets jaunes à ce moment-là, il disait qu'il y avait tous les droits de l'homme qui étaient bafoués. Et pour ça, elle a pris beaucoup, beaucoup d'insultes de la part de toutes sortes de journalistes de partout et même des politiques. Mmh. En tout cas, courage à cette femme qui me semble faire un boulot important.
Correct. Mmh. Alors, on va fact-checker un petit peu les fact-checkers parce qu'ils se foutent un petit peu de notre gueule. Vous avez LCI qui fact-check les fabricants de masques. Donc, vous avez ici une boîte de masques. Et dans cette boîte, il y a marqué « Ce produit ne protège pas de contamination virale ou infectieuse. » Et le titre il dit « Non, la mention ne protège pas de contamination ne signifie pas que les masques sont inefficaces. » Ils se foutent de notre gueule. Ils se foutent de notre gueule. Donc, c'est écrit dans, sur le paquet. Et là, écoutez ce qu'ils vous disent à la fin. Je l'ai noté sur l'article, mais je me rappelle où c'est. Donc, ce ne sont pas des masques à visée médicale, mais plutôt des écrans anti-postillons pour le grand public. Une efficacité qui augmente, comme nous vous le montrions dans cette vidéo, bon, à mesure que les personnes dans un même espace le portent. Cette mesure n'est donc utile que si elle est utilisée collectivement. Rappelez-vous, on a fait le truc de totalitaire. Là, c'est vraiment un signe, d'accord ? Vous devez obéir et porter le masque, comme ça, vous faites partie du corps totalitaire. Et là, monsieur LCI ou madame LCI, ce que tu es, elles sont les études qui montrent ça. Parce que là, c'est juste votre opinion, en fait. Et votre opinion, franchement, on n'en a rien à foutre. Mais genre, vous imaginez pas à quel point. Donc là, elles sont où les études qui prouvent ce que vous dites ? Et je vais même dire un truc un petit peu plus grave. En résumé, ce dispositif ne protège en effet pas de contamination virale ou infectieuse au sens strict. Mais alors, qu'est-ce que vous nous faites chier avec votre article de fact-checking ? Sans déconner. Mais il permet de réduire d'au moins 3/4 la propagation des agents infectieux. Elles sont où les études qui le montrent ? Vous, les fact-checkers ? Vous êtes officiellement la propagande du régime totalitaire parce que là, vous avez l'entreprise qui fabrique les masques vous dit ça protège pas et vous vous dites non, nous on connaît mieux. On le dit. Elles sont où les études ? On va vous fact-checker à partir de maintenant. Là, c'est juste pas possible. C'est vos opinions, on n'en a rien à foutre. Montrez-nous les chiffres. Montrez-nous les études, montrez-nous les statistiques. Votre opinion, on n'en a rien à foutre. Donc, ouais.
Bah surtout qu'il s'est retrouvé. En fait, c'est un truc à deux vitesses. Genre, ce dispositif permet de réduire à 3/4 pour les gueux, peut-être. Parce que, en fait, apparemment, toutes les élites, les sportifs, les stars, ils se retrouvent à plusieurs centaines dans les mêmes locaux à se taper la bise, etc. Et là, ça va.
Et en plus de ça, nous les gueux, selon les fact-checkers, nous sommes suffisamment intelligents pour comprendre que ces masques chirurgicaux, à la base, ils ont été faits pour être utilisés dans des environnements contrôlés, d'accord, qui sont les salles d'opération. À l'extérieur, les masques n'ont aucune utilité. Au contraire, elles deviennent dangereuses parce que c'est comme des suiveurs, ça absorbe des saletés, premièrement. Deuxièmement, il y a marqué dans l'article ici que ça protège des postillons. Alors oui, les postillons, ils ne partent pas à l'extérieur, mais ils vont où du coup ? Dans nos mains. Quand on enlève le masque, les gens, ils tripotent leur masque tout le temps. Et du coup, ça devient plus contagieux. Porter un masque, c'est statistiquement, enfin, juste utiliser votre cerveau. On met le masque, on le touche, on met les trucs sur les mains, et puis voilà, on
D'ailleurs,
propage.
Ça me rappelle quelque chose que je sais. Pourquoi on recommande les mouchoirs en papier, selon vous, plutôt que les mouchoirs en tissu ? Parce qu'en fait, porter devant son nez, devant ses muqueuses, à nouveau ce que notre corps a recraché, n'est fait qu'augmenter la charge virale et en fait et l'infection. Donc imaginez-vous éternuer dans votre masque, respirer longtemps dans votre masque et vous baigner systématiquement dans ce microbe et perpétuer et encore accentuer la contamination que vous aviez déjà.
C'est ouais. Donc à partir de maintenant, les fact-checkers, vos opinions, officiellement, on s'en fout et on va garder un œil sur vous parce que vous êtes vraiment, vous faites de la propagande et vous propagez que des opinions. Vous n'avez aucun fait. Quand vous faites du fact-checking, apportez des faits, apportez des chiffres, pas votre opinion. Donc voilà. Et donc, on a aussi, bien sûr, on va rigoler un petit peu, à 3 doses de vaccin, on pourrait tous enlever le masque, affirme ce soir le professeur Eric Com sur France Info. On regarde le petit extrait pour rigoler un peu ou pas ?
Oui, bien sûr. Ouais, ouais, ouais.
Je pense qu'il faut faire très attention. En ce moment, ça circule énormément. Donc, il faut porter le masque.
Pour dire les choses...
excuse-moi, parce que je n'ai pas complètement répondu à votre question. Ouais, on en a quand même pour plusieurs mois, mais ça ne durera pas non plus des années. Je rappelle que la précédente épidémie de coronavirus, OC43, avait duré 5 ans, mais à l'époque, il n'y avait pas de confinement. C'était en 1890, ça avait duré 5 ans. On a un repère historique, ça avait duré 5 ans. Bon, ça avait duré un peu moins longtemps en France. À l'époque,
on l'apprend, ça, on ne savait pas.
Il n'y avait pas de vaccin, il n'y avait pas de confinement.
Et les gens se sont sortis quand même, parce qu'on est toujours là et plus nombreux qu'à l'époque.
Donc là, peut-être que ça durera un peu moins longtemps. Excusez-moi.
Non, non. C'est moi qui essayais de vous interrompre. Alexandra vous a demandé, est-ce qu'on est condamné à porter le masque pendant encore de nombreuses années ? Pour dire les choses clairement et dites-les nous, vous avez un masque, est-ce que vous estimeriez plus prudent que nous en ayons un aussi ? On dit que c'est 2 mètres la distance, alors Alexandra et moi, on est à peu près à 2 mètres l'un de l'autre. Nous, on doit être à 3 mètres de distance. Que dit le médecin ?
Le médecin ne peut pas vous interroger en direct devant des milliers de spectateurs pour connaître vos antécédents, vos facteurs de risque.
C'est pas prévu.
Non, c'est pas prévu.
C'est quoi cette réponse ?
Ils ne vont pas connaître le nombre de doses que vous avez reçues. Mais par exemple, si vous êtes tous les deux à 3 doses de vaccin, on pourrait tous enlever le masque, et moi compris, puisque je suis à 3 doses aussi depuis pas mal de temps.
Donc le masque, il fonctionne, mais que si tu as les 3 doses, il vient de dire là.
Oui, ouais. Et avant que la quatrième sorte, enfin, il y a un truc, ils ont des timings. Il y a un emploi du temps où il fonctionne et il ne fonctionne pas. Tu sais. Et le pire, c'est que dans cette histoire, il y a tout qui est à l'envers. Tout qui est à l'envers. Lui, il dit, je suis à 3 doses, il porte le masque. Ceux qui sont en face de lui, on ne sait pas s'ils sont à 3 doses ou 2, ils ne portent pas le masque.
C'est
un cirque.
C'est un cirque, c'est exactement ça. Et attendez, parce que si tu veux parler de cirque, allons-y. Hein. Omicron, un virus qui est moins létal, mais plus contagieux, c'est plus de morts, beaucoup plus de morts. Je répète, un virus qui est moins létal fait plus de morts. Vous comprenez ? Moins létal, mais plus contagieux. En fait, on a déjà expliqué plein de fois dans le passé, les virus, soit ils sont mortels, très mortels, et ils ne se propagent pas parce qu'ils tuent leur hôte avant de pouvoir se propager. Soit ils ne sont pas dangereux et ils sont très contagieux. Parce qu'ils ne sont pas dangereux, du coup, ils se propagent plus facilement. Il n'y a pas... Là, ce qu'il vient de dire, c'est d'une stupidité. Et ce gars-là, il se prétend être médecin. C'est un néphrologue. Hein. Il va regarder si tu as des cailloux dans les reins. Mais écoutez ce qu'il dit. Il le dit vraiment.
De toute façon... Très important.
Si, les 10... on va pas regarder... ça dure 3 minutes 25.
Mais quoi qu'il en soit, les virus, en fait, en tant que... on ne sait pas si on peut les appeler les organismes vivants parce qu'ils ont certains comportements, mais du moins, ils veulent, en fait, perpétuer leur existence. Donc, leur forme, elle baisse en gravité pour ne pas tuer leur hôte. Mais le but de n'importe quel parasite, d'ailleurs, et du virus, c'est de vivre avec son hôte au final. C'est ça l'importance. Ceux qui échouent, c'est ceux qui tuent leur hôte et donc du coup qui limitent leur temps de vie et donc du coup leur temps de reproduction, etc. Et ça, c'est le sens naturel de la vie.
Donc, ce monsieur-là qui raconte ce genre de stupidité, vraiment, c'est bon quoi, ça va, arrêtez. C'est ce gars-là, le professeur Gilbert Deray. On va jeter un coup d'œil sur Doctolib pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il fait. Et on peut voir... qu'il n'accepte pas les cartes vitales, ce monsieur-là. On peut voir aussi qu'il demande 300 euros, les honoraires. Ça va. Il n'accepte pas la carte bancaire. Il accepte uniquement les chèques et les espèces. C'est la mafia médicale, en fait. Il fait partie, genre...
Ouais. Mais ça fait partie du serment de Hippocrate, tu sais. C'est comme avoir des conflits d'intérêts avec les labos pharmaceutiques quand on est soi-même médecin.
C'est exactement ça. Ce gars-là, monsieur, vous devriez plutôt aller faire un petit tour au miroir et discuter un peu avec, parce que là, vous faites honte à l'être humain, en fait. Vous êtes une honte.
Vous vous êtes ridiculisé, vous êtes incompétent, vous racontez n'importe quoi. Occupez-vous de la néphrologie, et encore, à savoir si vous savez le faire.
Ouais. Et on a Sergei Lavrov, on a ce tweet d'Idriss Aberkane. Idriss Aberkane, que je commence à vraiment apprécier de plus en plus, parce qu'il est en train de montrer... Tu sais, en général, les gens qui sont très cérébraux comme Idriss, il est extrêmement intelligent, ils ne sont pas forcément dans le courage. Mais là, Idriss Aberkane, wow, et il y va. Ah, il y va. Le gars, je ne sais pas, il a reçu le Saint-Esprit ou quelque chose, mais il y va, quoi. Et ces derniers temps, il déclare officiellement la guerre d'information et voilà.
Bah, quand et je l'ai là, vu dans les débats où il exposait certains sujets, je trouvais que c'est un être humain un peu spécial, en fait, dans sa façon à aborder les choses, etc. Comme s'il était détaché du sentiment de danger que peut représenter ses propos, en fait, dans l'environnement dans lequel il évolue.
Et le truc, c'est qu'il est clairvoyant et extrêmement intelligent, ce qui fait un combo vraiment super. Idriss, on te salue et respect. Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe, le type qui doit peser au milligramme près chacune des voyelles de ses mots, voilà ce qu'il déclare publiquement sans cligner des yeux. Écoutez bien.
Théorie et consensus.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
Вот
эти вот порядки, вернее, правила, на которых этот порядок будет основан.
C'est un autre exemple sur lequel l'ordre sera basé. Il y a des tentatives pour créer des groupes similaires en dehors de l'OMS. Mais la santé des gens n'est pas un domaine où l'on peut jouer à la géopolitique. À moins qu'il n'y ait un complot derrière cela pour réduire la population de la Terre. Beaucoup commencent maintenant à développer de telles théories et concepts.
Merci beaucoup.
Attends. Voilà, je fais pause et je le laisse à l'écran, comme ça vous voyez. Il le dit vraiment, parce qu'on a notre... comment notre agent secret du Kremlin, notre infiltré du Kremlin, Nikolai, oui, qui est là.
La traduction est bonne. Voilà. La seule chose que je pourrais rapprocher à cet extrait, c'est peut-être c'est qu'il est court, en fait. Mm. Et donc, on aimerait bien voir le début de la phrase. Mais en fait, l'important, c'est les mots qui sont prononcés, en fait. Parce que ça, ce sont les mots qui sont prononcés, on va dire, à destination d'une très, très grande diffusion de ces messages. Et si ces mots-là, ils commencent à circuler à ces niveaux-là, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Mmh. Il y a une partie de la population, quand ils parlent beaucoup, commence maintenant à développer des telles théories. Ça veut dire que c'est une partie de la population avec qui il faut désormais commencer à compter. Et on ne peut plus juste l'ignorer. Et Sergei Lavrov, il est réputé pour être un diplomate d'exception qui est en place depuis très très longtemps et quelqu'un qui choisit vraiment la façon dont il dit des choses et les mots qu'il utilise avec une très très grande prudence, la plus grande prudence.
Voilà. Et je répète encore une fois, il vient de dire à moi il vient de dire qu'on ne joue pas à la géopolitique avec les virus. À moi qu'il n'y a un complot derrière cela pour réduire la population de la Terre. Beaucoup commencent maintenant à développer de telles théories et concepts. Et ce n'est pas une erreur de traduction.
La traduction, elle est bonne.
Voilà. Donc, alors, next. La personne qui refuse de se faire vacciner s'exclut elle-même de la citoyenneté. On va regarder cet extrait-là. Prenez ce tweet et partagez-le. Remplissez-vous d'arguments intelligents.
Vous
pas comme lui.
Faites le lien avec la citoyenneté. Mais en fait, justement,
pas comme
la
cet imbécile.
Qui ne se fait pas vacciner, En fait, elle se met elle-même en fait en marge de la citoyenneté parce que par définition, elle ne pense qu'à elle. Par définition, elle a cessé de penser à autrui.
La personne qui ne se fait pas vacciner a cessé de penser à autrui. Il vient de dire cette truite intellectuelle.
Définition, elle a considéré que c'était ses petites angoisses personnelles, c'était sa petite vie intime, c'était son petit confort personnel, etc., qui comptait. En fait, elle montre, et elle est en train de montrer à tout le monde, qu'elle s'en fout globalement du collectif et du reste de la population.
De Mathieu Sama, puis Frédéric Vance.
Alors, juste comme ça, parce qu'on ne va pas le pardonner, ce gars-là, aussi facilement. Ce mec-là, si vous le trouviez à l'époque de la guerre 40, il serait certainement le genre de gars qui serait là à dénoncer tous ses voisins, en fait, pour la moindre des choses. Il porterait déjà, il se ferait tatouer la croix gammée et tout ça, tout ça. Ça, c'est une mentalité nazie, une mentalité totalitaire. C'est extrêmement dangereux. Et je sais de quoi je parle parce que c'est les personnes qui servaient le dictateur en Albanie avaient ce genre de propos. Au mot près. Au mot près.
D'ailleurs, en allant dans ce sens, en URSS, il y avait une légende d'un jeune garçon qui s'appelait Pavlik Morozov, Paul Morozov en fait, qui avait dénoncé aux agents de Tcheka à l'époque son père, qui était paysan, donc Kulak, comme quoi il avait des possessions privées. Et du coup, bah, son père, il a été jugé, il a été fusillé sur le champ. Donc, c'est pour vous dire dans quel genre d'environnement la logique qui a été énoncée là précédemment existe.
Conduit, ouais. Ouais, elle conduit aussi, hein, parce qu'on n'y est pas encore, mais si on écoute les gens comme ça, qui sont mis en avant à la télé, c'est, on va dans cette direction. Mais écoutez la réponse brillante de cet individu.
C'est le sujet fondamental. Vous êtes partisan, en fait, d'une méthode de gouvernement autoritaire qui consiste à dire si les gens ne se comportent pas bien, on va les amener à bien se comporter. Je voudrais vous répondre sur deux points, sur ce que vous venez de dire. La première, c'est dire, comme vous dites, que la société passe avant l'individu. C'est le principe des sociétés autoritaires et de sociétés non démocratiques. En Chine, par exemple, l'individu passe après la société. L'individu passe au second plan et c'est l'intérêt de la société qui passe au premier.
Vous avez le sentiment de vivre en Chine.
Ça, c'est le principe. Non,
vous avez le sentiment de vivre en Chine.
Voilà, là, il essaye de... Oui, monsieur, on a, avec des gens comme vous, on a le sentiment de vivre en Chine. Ouais. Parce que c'est justement, si des gens comme vous commencent à se propager, à devenir de plus en plus nombreux, et cette mentalité commence à dominer, on va vivre en Chine. Oui, monsieur, oui.
Monsieur, ce que vous décrivez, c'est le principe d'une société autoritaire. Et ça, c'est le contraire de la société démocratique française. Et deuxièmement, la citoyenneté, et c'est ce que je dis souvent, c'est peut-être le grand génie de la Révolution française, c'est que la citoyenneté, c'est les droits fondamentaux. Un citoyen, c'est quelqu'un qui a des droits. Ce que vous décrivez, c'est ce que...
Donc c'est le droit de s'en foutre.
D'abord des droits. Les devoirs, ça s'appelle l'Ancien Régime. La République, et c'est Clément, vous pouvez lire même, il y a des grands discours de Clémenceau là-dessus, qui dit la République, c'est la liberté d'abord. C'est l'individu et la liberté de l'individu d'abord. Donc ce que vous décrivez aussi, ça ressemble beaucoup plus à l'Ancien Régime qu'à la République. Voilà.
Voilà, parce que ce qu'il a dit l'autre, dans un régime démocratique où on est censé en fait pouvoir influer sur la politique, on élit des gens, on fait les suffrages, enfin le suffrage universel, le tirage au sort, enfin il y a plein de méthodes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas d'accord sur ce qui est le bien pour la société, parce que personne ne représente la société, aucun individu ne la représente. C'est pour ça, on est une multitude d'individus avec des opinions différentes, des opinions différentes sur le bien. Et en fait, l'ensemble, ce qu'on a, c'est la solidarité. On paye les impôts, avec ces impôts, en fait, le gouvernement, d'une manière neutre, il s'occupe, en fait, de cette solidarité entre les gens, de cette espèce de... Comment En gros, on y contribue par l'impôt, en fait, à cet effort collectif sur quelque chose.
Moi, j'ai choisi la réponse avec cette chronique de rire et chanson. On va l'écouter aussi.
Avant toute chose, dis-moi, tu n'aurais pas un bon médecin à me conseiller?
Non, tu vois la peau, je suis malade.
Mais non, parce que je suis allée voir le mien, je lui ai dit que j'étais prête à faire ma première dose suite aux ordres de la commandantour de la route autoritaire.
Arrête, tu me fais peur.
Excuse-moi, je ne sais pas ce que j'ai en ce moment.
Droit d'auteur.
Je couvre quelque chose.
Mais oui, qu'est-ce qui se passe?
Je ne sais pas, comme beaucoup de Français, je couvre quelque chose, certainement un début de totalitarisme aigu, je ne sais pas. Mon Dieu, j'ai une petite moustache qui pousse depuis quelques jours. Pas vous? Je ne sais pas, vous, ça me fait bizarre, ça gratte. Bref, donc j'ai dit que j'étais convaincue. enfin surtout vaincu, oui. Et il m'a dit, ah oui mais là vous n'êtes pas prioritaire, et puis si on doit rattraper toutes les doses, il vaut mieux aller chez un acupuncteur, ça ira plus vite. Je fais quoi moi maintenant?
Ah bah, je te donnerai le nom du mien, enfin j'y vais cet après-midi, c'est le même que celui de Jean Castex.
Oh merci ouais. Bruno, alors là j'y vais les yeux fermés, parce que Castex c'est la preuve vivante que les non-vaccinés attrapent le Covid et le transmettent. Ah. Alors que les vaccinés, eux, attrapent le Covid, le transmettent, mais sont vaccinés.
Mais sont vaccinés, c'est pas pareil.
Mais ça, c'est une sacrée marge.
Mais oui, tout à fait.
De bénéfices pour les labos. Et oui, car la seule vraie richesse, c'est la santé. Et ça, Big Pharma l'a bien compris, Bruno. Ah, bah, c'est le premier cours du jour en... Jour 1 en médecine.
C'est quoi?
Un patient guéri est un client perdu. Bruno, tu sais.
Oh. Ouais, notre... Mais enfin, mais qu'est-ce que tu insinues? Que quoi? Les labos ne se préoccupent pas vraiment de notre santé?
Je ne sais pas, Bruno, juste je m'interroge.
C'est bizarre.
Je ne sais pas, c'est comme si Charal s'occupait du bien-être bovin.
Ah oui, oui, effectivement.
Que Fillon devenait directeur de Pôle emploi fictif. Je ne sais pas, Bruno, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que pendant les fêtes, à la place du confit de canard, on va encore nous servir du conflit d'intérêts. C'est un peu plus lourd. Voilà. En plus, pardon, mais la politique sanitaire, là, on dirait une mauvaise pub des années 60. Mm. Oh non, mon t-shirt est tout taché. Mais tu as mis de la lessive, Josiane? Oui, une dose suffit normalement. Non, pour les taches résistantes, il faut en mettre 3, sinon ça lave moins bien. Mais bientôt, il va y avoir plus de lessive dans ma machine que de vêtements, non, Josiane? T'inquiète, avec le nouveau baril de Macron, à chaque lavage de cerveau, une dose, deux doses, trois doses suffisent. Les lavages de cerveau durent plus longtemps avec Macron.
Ah, oui.
Voilà, heureusement, on va pouvoir changer de lessive en 2022.
Oui, mais d'ailleurs, Éric Zemmour a officialisé sa candidature à l'élection présidentielle.
Mais oui, pour ces élections, on n'a plus le choix, hein. On a juste l'embarras.
Oui, ça, je te confirme. Tu penses que Zemmour a une chance de passer, toi?
Ah, écoute, en tout cas, à Marseille, ses partisans se comptent sur le doigt d'une main. Visiblement, le majeur. Voilà. Quant au Macron, à Macron. Enfin, bon, bref, de toute façon, c'est pareil, il mute. Hein. Il mute. Oui. Si, vous avez constaté qu'il avait changé de voix. Tu ne trouves pas dans sa dernière allocution, on aurait dit Barry White.
Ça montre bien que l'humour est la seule façon d'effleurer la réalité sans tomber dedans. J'adore cette phrase, c'est pour ça que je la répète. N'hésitez pas à partager, parce que franchement, l'humour, c'est quelque chose qui touche les gens au-delà du conditionnement. Parce que s'ils rigolent à quelque chose, il y a les associations qui se font. C'est en fait, en quelque sorte, de la contre-propagande.
Ouais, et la musique aussi, ça fonctionne pareil.
La musique aussi.
L'art en général. Et du coup, puisqu'on parle de Macron, Emmanuel Macron... Ça, c'est important. On va peut-être en reparler demain dans le live parce que c'est... Écoutez ce qu'il dit.
Je l'ai dit...
Je vais l'avancer un peu parce qu'il est insupportable.
C'est la fin du mandat. Et donc, je travaillerai jusqu'à la fin du mandat. Et il y a parfois des choix importants qu'il faut faire. Quelques semaines ou quelques mois avant la fin d'un mandat. Si je suis devant cette situation, je le ferai. Et donc, étant président démocratiquement élu avec un terme, j'agirai en cette condition jusqu'à ce terme.
Concrètement, il vient de vous dire que s'il y a des mesures difficiles à mettre en place jusqu'au dernier jour, il le fera. Et directement, on enchaîne avec cette interview qu'il avait donnée, juste par curiosité, je regarde la date, c'était quand? Hop, c'était le 4 décembre 2020, donc c'était il y a un an. Écoutez ce qu'il dit dans cette interview.
Et donc, ça viendra, si ça doit venir, au moment voulu. Je n'aurai pas la réponse ce soir là-dessus.
Sur la candidature.
Parce que je pense que ce n'est pas une bonne idée, ni pour la nation, ni pour moi-même, et que ce serait, pour le coup, insincère. Et peut-être que je ne pourrais pas être candidat. Peut-être que je devrais faire des choses dans la dernière année, dans les derniers mois, dures, parce que les circonstances l'exigeront, et qui rendront impossible le fait que je sois candidat. Je n'exclus rien. On a vécu des choses qui étaient absolument imprévisibles.
Donc... La raison pour laquelle on a mis ça, parce que ça date d'il y a un an, ça date d'aujourd'hui, cet après-midi. Et en fait, concrètement, Macron, il est en train de vous annoncer, dans les 4 mois à venir, d'ici avril, vous allez en chier. La situation va partir en couille et il va être obligé de prendre des mesures strictes. Rappelez-vous le coup sur faux drapeau qu'on vous a déjà dit. Le chaos qui va venir dans les mois à venir, c'est un chaos préparé 100% Deep State. Tout ce qui va arriver, c'est programmé. Et c'est... vous allez regarder ceux qui l'annoncent. Ils vous l'annoncent, en fait. Attali a dit la même chose. Il y aura une révolution avant 2022. Peut-être elle ne sera pas avant 2022, juste pour ne pas donner raison à Attali. Elle sera juste après 2022, donc début 2022, du coup. Mais en tout cas, ça arrive jusqu'à l'élection de Macron. Attendez-vous à ce que la météo s'empire. Là, c'est le début de la tempête, les amis.
En tout cas, la lecture comme ça superficielle de ce qui est raconté et le sentiment que ça provoque chez moi, donc du coup c'est personnel, c'est que Macron ne compte pas se représenter aux élections présidentielles. Donc, certainement que le Deep State doit avoir un autre candidat.
Il va faire certainement comme l'Autrichien là, qui les a laissés avec une obligation vaccinale pour février, puis après il a démissionné. Donc il va certainement faire, les amis, je vous le dis, préparons-nous parce que la tempête a déjà commencé. Les premières gouttes sont déjà là. Les premières gouttes sont en train de se transformer très rapidement en grêle. Donc soyons attentifs. Si, enfin, préparez-vous, organisez-vous, etc., etc. Ne flippez pas, n'ayez surtout pas peur et gardez votre esprit critique parce que tout ça, c'est fait pour retirer de vos capacités votre esprit critique. Gardez le sang-froid parce que c'est une période temporaire et elle sera très courte, elle ne va pas durer longtemps. Donc là, c'est ce que Macron nous annonce.
Donc tu veux dire qu'il veut laisser une grosse macrotte devant la porte de sortie?
Ok. Et puisqu'on est là, petit rappel parce que ça a été le sujet des derniers jours, McKinsey. Le cabinet McKinsey, condamné à 573 millions de dollars pour fraude, a créé En Marche en 2016. C'est un article qui date de février 2021. Et il explique que le cabinet McKinsey... Et Emmanuel Macron, c'est une longue histoire. En effet, ces dernières semaines, une vive polémique. Blablabla. Concrètement, McKinsey et Macron, ils se connaissent. McKinsey et Valérie Pécresse, ils se connaissent. Valérie Pécresse, elle est donnée devant dans les sondages. Attali a dit que ce sera une femme. On a fait la prédiction. Donc, pour mieux comprendre tous ces liens-là, allez regarder l'article que Nicolas a préparé, en fait, qui s'appelle « La pieuvre McKinsey ». Voilà.
Et n'hésitez pas à rester attentif et de suivre l'actualité autour de cette entreprise qui n'est pas fréquente. Elle apparaît quand même. Faites vos recherches. C'est un réseau très, très, très important. Et vu qu'ils sont spécialisés dans le conseil, donc ils conseillent également les campagnes présidentielles, les candidats et tout ce genre de choses.
Et deux petites nouvelles avant de finir. Donc, on avait mis cette vidéo de Fox News, mais on va la changer parce que je viens de recevoir, pendant qu'on tourne cette revue de presse, la traduction. Donc, regardez la vidéo. Merci beaucoup.
Hillary Clinton trouve des moyens encore plus bizarres d'être sous les projecteurs ce soir en faisant équipe avec le groupe de masterclass pour enseigner ce qu'elle appelle le pouvoir de la résilience. Et dans la classe, Clinton a lu ce qu'elle a dit être son discours de victoire pour 2016. Plus de 5 ans se sont écoulés depuis son écrasante défaite face à Donald Trump, mais Hillary n'arrive toujours pas à tourner la page. Regardez ça. Je rêve de m'approcher d'elle et de m'asseoir à côté d'elle, la prendre dans mes bras et de lui dire « Regarde-moi et écoute-moi, tu vas survivre. Tu auras une bonne famille à toi et 3 enfants. Et même si c'est difficile à imaginer, ta fille va grandir et devenir la présidente des États-Unis. » Oh là là, c'est très fort. Pas vraiment. Bien sûr, ces remarques déroutantes ont immédiatement suscité les moqueries prévisibles sur les médias sociaux. Un utilisateur de Twitter a décrit « Elle va nous apprendre à nettoyer un serveur de messagerie avec un chiffon. » Un autre « Est-ce une masterclass sur la façon d'éviter que le Wisconsin colporte des canulars de collision et paye des Russes pour s'immiscer dans nos élections, sur la suppression des emails ou sur le fait d'être un mauvais perdant ?» Hey Hillary, est-ce que votre discours mentionne quoi que ce soit sur le 18 USC 793, qui est la loi sur l'espionnage, et ne mentionne rien sur les principaux emails cités à comparaître ou sur le paiement du sale dossier russe Steele utilisé pour espionner votre adversaire Donald Trump? Voici pour réagir à cela l'auteur du best-seller Laptop from Hell, Miranda Devine, collaboratrice de Fox News, ainsi que Greg Jarrett, analyste juridique de Fox News. Je ne sais même pas ce que Miranda doit en penser, sauf que je serai pour un peu moins de pleurs à la télévision entre les balles. Oui, je ne peux plus le supporter. Oui, ce que je veux dire, c'est assez hilarant. Et ce qui est le plus hilarant, c'est qu'elle a construit ça comme une sorte de masterclass. Je pense que les gens sont censés payer pour ça. Et ça ressemble juste à une masterclass sur l'apitoiement et l'illusion, ou peut-être une masterclass sur comment perdre une élection. Ce discours est tout simplement choquant. Et vous devez noter qu'elle est très émotive à propos de cette défaite d'il y a 5 ans. Mais elle n'était pas aussi émotive, elle était plutôt insensible en fait quand elle témoignait sur Benghazi. Donc je regarde ses larmes et cela me laisse froide. D'habitude, je me sens un peu désolée pour les personnes qui sont submergées par l'émotion, mais pas dans ce cas, car elle est tellement centrée sur elle-même. Quel est votre avis, Greg Jarrett? Je ne sais même pas quoi dire à ce sujet. Le fait que nous savons maintenant qu'elle a encore menti, il s'agissait d'un sale dossier invérifiable et ironiquement russe, utilisé pour espionner son adversaire politique, l'équipe de transition et un président, et elle s'en est tirée à bon compte et elle l'a utilisé pour détourner l'attention du scandale des emails du serveur qu'elle a nettoyé et dont les appareils ont été détruits par des marteaux. Si vous le faites, si Miranda le fait, si je le fais, alors on va en prison. Elle l'a fait et rien.
Alors, avant que ce gars commence à répondre, j'attire votre attention sur le fait qu'on vient d'écouter un journaliste de Fox News décrire le Obamagate. Officiellement, au grand public, ce n'est plus une théorie de complot, c'est une réalité de complot. On va arrêter de parler de théorie de complot, on va parler de réalité de complot. Parce que là, c'est exactement, il vient de décrire des choses que nous on dit depuis mars de l'année dernière. On parle de Hillary, qu'elle a mis toute cette histoire de collusion russe. Elle a tout créé de zéro. Et c'est vraiment un hoax, un gros fake. Il vient de le dire aussi. Sauf que là, c'est Fox News et c'est devant des dizaines de millions d'Américains. Il parle de complot. Juste, faites les liens dans votre tête parce que parfois, avec toutes ces nouvelles-là, on oublie d'être attentif à l'évolution des nouvelles, en fait. Écoutez-la.
Oui, il arrive pour enseigner une masterclass sur la stupidité. J'ai eu la malchance de voir cela.
Et il parle de Hillary, regarde, et il lui démonte la gueule, c'est incroyable.
C'était pathétique et embarrassant et en fait nauséabond. Je n'arrête pas de penser, quel genre de personne ferait cela? Eh bien, une personne qui aspire à la reconnaissance, c'est certain, mais une personne aigrie qui refuse d'accepter la responsabilité personnelle de son propre échec. Elle a perdu parce qu'elle a mené une campagne hideuse avec des politiques impopulaires et qu'elle est apparue comme antipathique. Et pourtant, elle est obsédée par le fait de blâmer les autres. Elle a décrit un livre entier pour blâmer tout le monde, sauf elle-même. Les gens comme ça, Sean, ne supportent pas la défaite. Ils ne supportent pas la critique. Elle semble être un cas classique de trouble de la personnalité narcissique, ce sens exacerbé du privilège, un sens exagéré de sa propre importance et aucun sens dans le fait d'avoir une conscience. Mais en plus, comme vous le soulignez, le scandale et la malfaisance la suivent partout où elle va. Miranda a raison.
Tout ça pour dire, là on vient de traiter Hillary Clinton de narcissique dans la chaîne des nouvelles la plus vue aux États-Unis. Et parce que ce n'est plus CNN, MSNBC et tout ça, eux, ils sont en train de perdre, ils sont à moins 70% de personnes qui regardent.
Il l'a pris et il l'a tartiné sur du pain patriote.
Il lui a démonté, ouais. Donc, voilà.
Bah, j'ai envie de dire qu'il n'aurait jamais cru qu'il allait perdre.
Ouais.
Ils étaient prêts, ils étaient sûrs que Hillary Clinton, en 2016, allait être présidente. Ils étaient sûrs. Et là, ils n'arrivent toujours pas à assumer le fait qu'elle ait perdu en 2016.
C'est clair. Mais c'est aussi, ça montre... Moi, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'elle va essayer de revenir d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas. On garde un œil. Mais en tout cas, là, elle vient de se faire démonter sévèrement. Et une petite nouvelle pour finir. Le groupe chinois Evergrande a officiellement fait défaut sur la dette américaine sans qu'aucun renflouement ne soit en vue. Donc, Evergrande a à un moment Lehman Brothers. Je vous ai sorti l'extrait qui était le plus intéressant. L'agence de notation... Alors, Evergrande, c'est une des plus grandes compagnies en Chine. Okay? La troisième, je crois, en termes de marché, c'était... L'agence de notation Fitch, américaine, a placé Evergrande dans la catégorie « défaut restreint » après que le promoteur immobilier n'a pas effectué un paiement d'intérêt de 82 millions de dollars aux détenteurs d'obligations exigibles lundi. La désignation RD, donc défaut restreint, qu'Evergrande est officiellement en défaut de paiement, mais qu'il n'a pas encore cessé ses activités ou déposé un quelconque bilan. Et ça, c'est une situation un peu chelou, un peu étrange. Evergrande est l'un des promoteurs immobiliers les plus importants et les plus endettés en Chine. En général, ça va ensemble, en fait, parce qu'étant donné que c'est un monde à l'envers, les plus endettés sont aussi les plus riches. Comme c'est le cas des États-Unis, première économie mondiale, c'est le pays le plus endetté au monde. Et là, on a la charte d'Evergrande où on a vu qu'elle est passée de, on va dire, 15 dollars à peu près, à maintenant 1,80. Donc ça fait à peu près 90% de... Et le truc, c'est que là, la charte, je ne sais pas. Moi, quand j'entends les mauvaises nouvelles et j'entends aussi qu'elle n'a pas cessé son activité, je ne sais pas. On va garder un œil de ce côté-là parce que le jour où elle déposera bilan officiellement, c'est là où elle aura vécu un moment Lehman Brothers. Pour l'instant, peut-être que c'est autre chose que ça indique. Mais on va garder un œil sur ça. Alors, on a essayé de garder court. On n'a pas pu garder moins de 41 minutes, du coup, pour cette revue de presse. J'espère que ça vous convient, ce qu'on fait là. Et Nico ?
Bah, n'hésitez pas à partager vos commentaires concernant ce que l'on fait là et on va essayer de le faire assez régulièrement si jamais ça vous plaît et que vous êtes nombreux à regarder les revues de presse.
À un moment donné, Rudy viendra aussi de temps en temps faire les revues de presse avec nous. Là, il n'est pas disponible, un petit moment en famille. Donc, on essaye et on continue. Et avec, du coup, ça fera un live un petit peu plus léger demain. On ne va pas faire un live de 2h50 parce que c'est fatigant pour nous, c'est épuisant. Donc, et c'est fatigant pour tout le monde. On essaye de respecter votre temps. Sur ce, que la paix vous accompagne et n'oubliez pas la prière. Retrouvez votre chemin de la réunion entre les cieux et la terre. D'accord ? Et cette guerre est spirituelle, ne l'oubliez jamais. Cette guerre est spirituelle. Il n'y a pas de chemin qu'à travers le monde matériel. Sans la spiritualité, il n'y a pas de sortie, malheureusement. Donc c'est pour ça qu'on vous invite. Prenez du recul, éloignez-vous des grandes villes, respirez. Détendez-vous, essayez de trouver d'autres personnes comme vous et parlez. Ah, et ça, je vais en parler demain aussi. Aujourd'hui, j'ai vu un employé dans un magasin ne pas porter de masque, il l'avait mis en bas. Et j'étais le voir et je lui ai dit, tu sais quoi, ça me fait vraiment plaisir de te voir porter le masque ici en dessous. Il dit, ah bon, bah, parce que mes collègues, ils disaient que je suis débile. Je dis, non, au contraire, tu n'es pas débile. C'est grâce à des gens comme toi qu'on va finir un jour par enlever le masque complètement. Merci. N'hésitez pas à encourager les personnes qui font ça. N'hésitez pas à faire entendre votre voix. Le moment est venu, c'est maintenant que ça se passe. N'hésitez pas à vous faire entendre.
Voilà. C'est vrai. Remplacer la critique par des encouragements envers ceux qui le méritent. Paix, amour, les amis, à demain.
À demain.